Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'affaire Debreuil, l'un des plus grands scandales de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Un député, Jean Debreuil, est assassiné. Et la vérité s'avère introuvable, car l'affaire est classée secret défense. On se contentera donc de juger les lampistes. Une histoire que j'ai écrite en m'appuyant notamment sur le livre de Christian Chatillon, Contre-enquête sur l'affaire Debreuil, aux éditions L'Artilleur. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Cette histoire commence la veille de Noël 1976 à Paris, rue des Dardanelles, à côté de la Porte Maillot. Un matin glacial. À 9h22 précise, on entend trois coups de feu. Et on voit un homme qui s'enfuit en courant et un autre qui s'effondre. Le temps d'appeler le SAMU, et pour lui c'est fini. L'homme décède sur ce trottoir gelé, mort d'une balle dans la tête. Approchez-vous, venez, regardez-le. La soixantaine, les cheveux gris gominés tirés en arrière, un pardessus noir et des chaussures, vous avez vu les chaussures? La semelle est usée jusqu'à la corde. Ça doit être un truand. C'est un règlement de compte dans le milieu, voilà tout. Et les règlements de compte, c'est bien connu, ça ne nous regarde pas. Il n'avait qu'à pas être dans le milieu. Vous n'y êtes pas du tout. Les policiers qui viennent d'arriver fouillent la poche intérieure de son veston. Dedans, il y a un portefeuille. Il l'ouvre. Une carte tricolore, une carte de l'Assemblée nationale. La victime est un député. Et pas n'importe lequel. Le prince Jean Debreuil, député de l'Eure, maître de requête au Conseil d'État, l'homme qui a négocié la fin de la guerre d'Algérie, secrétaire d'État aux affaires étrangères sous De Gaulle, président de commission à l'Assemblée sous Pompidou, et mieux encore. C'est le cousin du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est aussi le cousin du ministre de l'Intérieur, le prince Michel Poniatowski. Sacré pédigré. Qu'est-ce qui a bien pu lui valoir de mourir sur ce trottoir glacé? C'est évidemment le 36 Quai des Orfèvres qui est sur l'affaire. Avec, on s'en doute, une légère pression politique. Oh, trois fois rien. Et médiatique aussi. Il y a des meurtres auxquels les journalistes ne prêtent pas attention, mais celui-là, même si on est la veille de Noël, il se rue pour interroger les témoins.
J'ai entendu deux coups de revolver. J'ai regardé là de ma fenêtre, parce que j'habite au rez-de-chaussée, et je regardais et je vois un jeune homme brun, pas très grand, avec un pardessus foncé, à courir. Il a couru comme ça, il a fait le tour et il est allé par là.
En courant?
En courant. Tout en, il volait.
Et alors il était comment physiquement, le visage?
Il est jeune, il est brun, oui. Sans barbe, sans moustache, tout ce que je peux dire.
Et de toute évidence, il était tout seul?
Il était tout seul. Moi, je l'ai vu tout seul. Il n'y avait personne, il y avait que lui qui courait et puis c'est tout.
Et dans ces années-là, un commissaire de police s'accuse. C'est le commissaire Ottavioli, le patron de la criminelle, qui est à la manœuvre. Commissaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette enquête? Écoutez, c'est une enquête qui s'annonce longue et difficile. Et vous avez des pistes, commissaire? Non, pas de pistes à l'heure où on parle. Nous allons procéder à des vérifications. Tous les effectifs sont mobilisés. D'emblée, la piste qui est privilégiée est celle des affaires. Jean Debreuil faisait des affaires, il était très riche. François croit savoir qu'il était mêlé à des affaires suspectes. Et donc il connaissait son tueur. Il est tombé dans un guet-apens. Les obsèques du prince Debreuil ont lieu 4 jours plus tard, sous la neige, dans le petit village de Broglie, le fief de la famille dans l'Eure. La famille y possède un petit cimetière privé, c'est vous dire. Tout le village est là. Jean Debreuil en était le maire. Mais en revanche, pas un ministre.
On attendait messieurs Le Canuet, Dornano et Ruffnac. Ils se sont fait excuser ce matin en toute dernière minute en invoquant le mauvais temps. On attendait aussi M. Edgar Faure, il s'est fait représenter par son directeur de cabinet.
À cause de la neige, tu parles. Et bien sûr pas de Giscard non plus, et pas plus de Poniatowski. C'est que le cousin, mort, est devenu sulfureux. C'est le mouton noir de la Giscardie. Mais de quoi ont-ils peur ? Quand ils héritent de l'affaire de Breuil, les policiers du 36 quai des Orfèvres sont très embarrassés. Très, très embarrassés. Parce que figurez-vous que 3 mois plus tôt, un flic, l'inspecteur Roux, a eu un tuyau selon lequel le prince de Breuil allait être assassiné. Ce Roux a rédigé 2 rapports sur cette menace. Et depuis, ben, ils prennent la poussière. On les a négligés, alors qu'ils étaient prophétiques. On les a négligés ou on les a enterrés? On les a enterrés, en vérité, mais ça, on l'apprendra plus tard. On les a enterrés sur ordre du ministre de l'Intérieur, en personne, le prince Poniatowski, le cher cousin du mort. Ce qui, pour être clair, veut dire que le ministre de l'Intérieur de Valéry Giscard d'Estaing savait que le député Jean de Breuil allait être assassiné et qu'il n'a pas bougé. C'est énorme. Tout ça pour dire qu'au moment où le 36 récupère le dossier de Breuil, ce rapport, bah il est là, il est sur un bureau. Et maintenant, il n'y a qu'à le lire, j'ai envie de dire. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces 2 rapports, en vérité, qui tiennent sur quelques feuillets? Dans ce rapport, on raconte l'histoire suivante. 2 hommes ont fait l'acquisition de faux bons du trésor. L'un est propriétaire de grands restaurants, et l'autre, c'est Jean de Breuil. Ils sont mouillés jusqu'au cou dans une affaire à plusieurs millions de francs. Et dans ce cadre, c'est écrit, hein, il y a un contrat sur Jean de Breuil. Et donc le directeur de la PJ, ayant lu ce rapport, appelle immédiatement l'inspecteur Roux. Il l'appelle 1 quart d'heure après le meurtre de Jean de Breuil. Michel Roux, salut. Bon, dis-moi, c'est fait, hein. Le prince de Breuil est mort, comme tu l'avais écrit dans ton rapport. Ouais, ouais. Rue des Dardanelles, il y a un peu plus d'un quart d'heure, là. Abattu au 9 mm. Dis-moi, le tonton, là, qui t'a rencardé sur ce projet d'assassinat, tu peux retourner le voir? Il faut absolument qu'on sache qui a fait le coup, Michel. Et donc, l'inspecteur Roux retourne voir son indique. Ah, mais moi, je veux pas paraître dans cette histoire, oula. Ça, c'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. Michel, je peux rien te dire.
Ils veulent que t'ailles au quai des Orfèvres. Ils veulent te voir.
Ah non, non, j'irai pas. Je veux pas paraître, je te dis.
Roux lui met la pression toute la soirée et toute la nuit. Et finalement, le matin de Noël, l'autre lui balance 4 noms.
De Varga. Lui, c'est le commanditaire. Ensuite, il y a Simonet. Guy Simonet. Ça va te surprendre un peu, c'est un flic. C'est l'organisateur. Et puis, il y a Técèdre. Lui, c'est celui qui a recruté le tueur.
Et le tueur, c'est qui?
Fraîche. Gérard Fraîche.
Merci.
Tu le regretteras pas.
Sacrée révélation. Il y aurait donc un flic dans la boucle. Évidemment, on va les arrêter tout de suite. Eh ben non. Étrangement, on attend 3 jours. Pourquoi? C'est l'un des mystères de cette histoire. Et donc le 27 décembre, 4 jours après le meurtre, les 4 sont arrêtés et conduits au 36 quai des Orfèvres discrètement. Un photographe a réussi à prendre une photo, il se fait immédiatement confisquer sa pellicule. Pas question de révéler l'identité des gardés à vue. Trop sensible. Et en garde à vue, tout le monde se met à table. Técèdre, Fraîche et même l'inspecteur Simonet. Oui, ils ont participé au meurtre de Jean de Breuil. Mais pas de Varga, le commanditaire présumé, si on en croit l'indique.
Il faut dire que ce de Varga, c'est un conseiller juridique de Jean de Breuil. C'est de chez lui que le député sortait quand il a été assassiné. Et lui, il dit qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Je ne lui connaissais pas d'ennemi. Je ne m'explique pas ce drame. À ce détail près, qu'on a trouvé chez lui deux chèques provenant d'un certain Simonet. On les lui met sous le nez. Il fait un malaise. Et quand il se remet, ça n'a rien à voir, ces chèques. C'est de l'argent que j'ai prêté à Simonet. Il me l'a remboursé, c'est tout. Fermez le banc. Il n'y aura pas d'aveu. Et de Varga est relâché. Et dans la foulée, le ministre de l'Intérieur Poniatowski annonce une conférence de presse. C'est très étrange d'ailleurs, au nom de la séparation des pouvoirs, que le ministre de l'Intérieur fasse une conférence de presse sur une affaire en cours. D'habitude, c'est le procureur qui parle, éventuellement le juge d'instruction. Mais là, c'est inédit. Poniatowski apparaît à la tribune avec le patron de la CRIM à sa gauche et le patron de la PJ à sa droite.
Bien, messieurs, je vous annonce que dans l'enquête sur l'assassinat de Monsieur de Breuil, la police a réussi un coup de filet magistral. J'ose le dire. Tout le monde a été arrêté. Et cette enquête a été conduite de manière exemplaire, et je donne maintenant la parole au directeur de la police judiciaire qui va vous donner de plus amples détails.
Et voilà donc l'histoire, ou oserais-je dire la fable, que le directeur de la PJ livre aux journalistes 5 jours après le crime. De Breuil était en affaire avec 2 personnes. Pierre de Varga et Patrick de Ribemont. À 3, ils ont acheté un restaurant, la rôtisserie de la Reine Pédoc, près de la gare Saint-Lazare à Paris. Pour ça, ils ont contracté un emprunt au nom de Varga et de Ribemont. 4 millions à la BNP. Et c'est De Breuil qui était la caution, c'est lui qui s'engageait à payer, et c'est donc lui qui a souscrit l'assurance du prêt. Et maintenant qu'il est mort, les 2 autres n'ont plus rien à rembourser. C'est pour ça qu'ils ont fait tuer De Breuil, pour ne pas rembourser l'emprunt de la rôtisserie. C'est un crime d'intérêt. Voilà la fable qu'on demande aux Français de gober tout cru. Une histoire d'investissement dans le poulet rôti qui a mal tourné. Et maintenant, circulez. Circulez, il n'y a rien à voir. Et évidemment, on ne dit rien, pas un mot, du rapport Roux. On ne dit pas que la police savait depuis 3 mois qu'il y avait un contrat sur De Breuil et que c'est Pognat qui l'a enterré. Voilà, la conférence de presse est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous. Et dans un bel ensemble, le ministre et ses 2 porte-flingues se lèvent et quittent la salle. Ça sent la salade, ça sent l'enfumage. Que vient faire un policier, l'inspecteur Simonet, dans cette équipe de tueurs? Pourquoi le ministre a-t-il tenu à s'exprimer en personne, alors que les suspects n'ont même pas encore été déférés devant le juge? La presse ne se contentera pas de ces balivernes. D'autant que quelques semaines plus tard, le dossier De Breuil est classé « secret défense » par le Premier ministre Raymond Barre. Tiens, tiens, on aurait donc des choses à cacher? Pile au moment où le ministre de l'Intérieur Poniatowski sert à la presse cette histoire à dormir debout, les 2 associés dans l'affaire de la rôtisserie, de Varga et de Ribemont, sont toujours dans le bureau du juge d'instruction. Ils ne sont pas encore inculpés. Et ils n'adhèrent pas du tout à ce scénario. Ils sont innocents. De Ribemont notamment est indigné. Il tempête, il s'étrangle. Au point d'ailleurs que le juge lui dit « Monsieur de Ribemont, si je m'aperçois que vous n'avez rien fait, vous pouvez compter sur ma parole. Je vous relâcherai aussitôt. » Et il va le faire. Après 2 mois de préventive, de Ribemont sort blanchi. Non-lieu. L'inspecteur de police Simonet est lui aussi entendu par le juge d'instruction. Selon l'indique, c'est l'organisateur du crime. Il assume.
Monsieur De Breuil était devenu trop gênant à cause d'un conflit économique très grave. Alors un jour on m'a dit, en haut on s'impatiente. Et donc on est passé à l'action.
Et en haut, monsieur Simonet, c'est qui?
En haut, monsieur le juge,
En haut, c'est intouchable. Vous reconnaissez avoir recruté Gérard Fraîche pour exécuter Monsieur de Breuil?
Oui. Oui, je le reconnais. À la demande de Pierre de Varga. Il m'avait demandé un acte d'euthanasie.
D'euthanasie?
Oui. C'était son expression. Le juge interroge aussi Gérard Fraîche, le tueur présumé. C'est un gamin, 20 ans, pas très grand, frêle. Il colle assez bien avec ce qu'ont vu les témoins rue des Dardanelles. Moi, je voulais juste toucher un peu d'oseille, quoi. Je crois bien que dans cette affaire, j'ai été roulé. Bien fait pour moi, c'est moi qui vais tout prendre. Hein.
Pour vous, monsieur Fraîche, qui est l'organisateur du meurtre?
Ben, c'est Simonet. L'inspecteur Simonet. C'est avec lui que j'ai fait les repérages. Avec lui et puis monsieur Albert.
Monsieur Albert. Le juge fronce les sourcils. Qui c'est celui-là? Il n'apparaît pas du tout dans la procédure. Les policiers du 36 n'en disent pas un mot dans leur PV. Et pour cause, c'est le tonton de l'inspecteur Roux. C'est l'indic. C'est lui qui a balancé les quatre noms. Jusqu'au bout, les flics du 36 l'ont sorti de l'affaire. Fin de l'interrogatoire de Gérard Fraîche, le tueur, et une séquence étonnante qui se joue juste après, dans les couloirs du palais de justice. Gérard Fraîche, les pinces dans le dos, croise par hasard l'inspecteur Simonet.
Gérard, surtout tout la boucle. On est super couvert. T'en fais pas. On moisira pas en prison. 5 ou 6 piges, pas plus.
Le juge assiste à la scène médusé et il fait noter le dialogue par sa greffière. Super couvert. Mais par qui?
Le juge, évidemment, est très intrigué par ce monsieur Albert dont les flics du 36 ont voulu lui dissimuler le rôle. Et donc il le convoque. Et pas de peau, ce jour-là, un photographe est en planque. Rassurez-vous, on lui prend sa pellicule.
Bien, monsieur. Votre nom apparaît dans l'enquête que je conduis sur l'assassinat du député Jean de Breuil. Qu'est-ce que vous pouvez me dire spontanément dans ce dossier?
Monsieur le juge, vous êtes en train de vous attaquer à une affaire d'État. À trop vouloir chercher la vérité, monsieur le juge, je vous le dis, hein, vous mettez votre vie en danger.
Je vous repose la question, monsieur. Quel est votre rôle dans cette affaire?
Moi, je suis juste l'indicateur de l'inspecteur Roux, monsieur le juge. C'est moi qui l'ai prévenu 3 mois avant que de Breuil allait être exécuté. C'est moi qui l'ai tuyauté, quoi.
Vous verriez la tête du juge à ce moment-là. Il ne connaît rien de ce volet de l'histoire. Il ne sait pas que le 36 avait été prévenu du meurtre 3 mois plus tôt. Il ne sait rien des 2 rapports de l'inspecteur Roux. Il tombe de l'armoire. Et ça l'agace. Ouh, que ça l'agace. Et donc, dans la foulée, il demande qu'on lui transmette les 2 rapports. Eh bien, il ne les aura jamais. Jamais.
En revanche, les Français vont les avoir, 4 ans plus tard. Ils sont publiés par le Canard enchaîné le 2 avril 1980. C'est un scandale ravageur pour Giscard. On est à 1 an de l'élection présidentielle de 1981 qui va l'opposer à Mitterrand pour un 2e mandat. Dans la foulée, Michel Poniatowski, qui a enterré les rapports, doit s'expliquer devant une commission d'enquête parlementaire. Il risque d'être traduit devant la haute cour de justice pour non-assistance à personne en danger, le ministre de l'Intérieur. Rassurez-vous, la commission d'enquête est présidée par un giscardien, Gérard Longuet, qui conclut à l'absence de preuves contre le ministre de l'Intérieur, Poniatowski. C'est pas beau, ça. On a
quatre coupables, ils vont être renvoyés devant la cour d'assises pour l'assassinat du député Jean de Breuil. Quatre lampistes, d'une certaine manière. Le procès de l'affaire de Breuil s'ouvre en novembre 1981. Pour Valéry Giscard d'Estaing, entre-temps, les choses ont tourné court. En mai, il a perdu l'élection face à Mitterrand. Et il a prononcé son fameux « au revoir ». Et c'est donc parti pour un procès fleuve d'un mois et demi. Un dossier titanesque, des centaines de témoins. Et je vous rassure, je ne vais pas vous le raconter en entier. Mais tout de même, on y apprend des choses bien intéressantes qui viennent éventuellement éclairer cette affaire sous un autre jour. D'abord, on découvre que Jean de Breuil, avant sa mort, était à la tête d'une société, la Sodetex, dont la noble fonction était de transférer au Luxembourg l'argent de fascistes espagnols, de franquistes. Classe ! Et qu'à un moment, il y a eu un trou de 400 millions de francs dans les caisses de la Sodetex. Et qu'ensuite, entre 1977 et 1980, un associé de la Sodetex s'est suicidé, un directeur s'est noyé dans le lac Léman, et un administrateur s'est tué sur la route. D'où la question. Est-ce que ça n'est pas de Breuil qui a siphonné les 400 patates? Auquel cas, ça fait un sacré mobile pour l'assassiner. Comme dit Roland Dumas, l'avocat de Simonet, cette histoire est autrement plus crédible que l'histoire de la rentisserie. Autrement plus crédible. Maître Dumas qui rappelle par ailleurs que de Breuil se trouvait mêlé à un trafic d'armes. Mais on n'en saura pas plus puisque le secret défense est activé. Mais ça n'est pas tout. Au cours de ce procès, on apprend aussi qu'au sein de la Sodetex, dont je rappelle que de Breuil était le patron, il y avait un fondé de pouvoir, un certain Raoul Deléon. Et celui-là, Pierre de Vargas, l'accuse d'être le vrai commanditaire du meurtre. Or, ce Raoul Deléon est un ancien collabo, qui a tenté de berner tout le monde à la Libération en décrochant une médaille de résistant. Résistant, tu parles. Il était en cheville avec l'Opus Dei franquiste. Et quand ça s'est su, il a fallu lui retirer sa médaille. Il vient à la barre, et il dit qu'il n'y est pour rien. Alors le président lui demande de revenir le lendemain, et il ne revient pas. Et ça n'ira pas plus loin, on ne va pas embêter Monsieur Deléon. Car ce procès est fait pour faire payer les lampistes. Rien de plus. Il l'a dit, Simonet. En haut, c'est intouchable. Dans ce procès, il y a aussi un moment où le président s'attaque aux renseignements généraux. Car l'inspecteur Simonet affirme que dans cette affaire, ils étaient couverts par un inspecteur des RG. Simonet dit même que les RG étaient présents rue des Dardanelles le matin du crime et qu'en gros, ce sont eux qui ont récupéré le tueur. C'est une scène qui a été parfaitement décrite par la gardienne du 2 rue des Dardanelles. Elle a parlé d'un jeune homme maigre, le tueur, s'engouffrant dans une voiture dans laquelle se trouvaient deux hommes. Mais c'est dommage, on n'a pas retrouvé la concierge. Impossible de la faire venir à la barre. Le président s'étonne. À chaque fois que j'aborde la question des relations entre les renseignements généraux et Pierre de Vargas, je constate que c'est le silence. À la fin, l'avocat général réclame 20 ans pour de Vargas et Simonet, 15 ans pour Fraîche et 6 ans pour Tessèdre. Paul Lombard, l'avocat de Pierre de Vargas, plaide l'acquittement.
Dans quelques heures, les 9 jurés de la cour d'assises de Paris, 5 femmes et 4 hommes, vont rendre leur verdict. Bien malin qui pourrait avancer un pronostic en se basant sur leur mine. Il est vrai, là, c'est plutôt désabusé après 2 mois de débats fracassants mais tout à fait stériles. S'il est en effet une certitude que nous pouvons avoir ce soir tous, c'est de dire que l'affaire de Breuil restera une affaire sans mobile. Car ce soir, à la veille du 5e anniversaire de l'assassinat du prince Jean de Breuil, mort comme un truand sur un trottoir, le mystère n'est toujours pas éclairci. Personne ne croit au mobile officiel soutenu par l'avocat général Darlene Carter, avec, il est vrai, la conviction d'un pilote désespéré qui s'écrase sur le pont d'un navire, faute de pouvoir faire autre chose.
Et maintenant, on attend le verdict. Le verdict tombe le 23 novembre 1981 à 23h. Les quatre accusés sont jugés coupables. Fraîche le tireur, Simonet l'organisateur et Devarga l'instigateur prennent chacun 10 ans, soit deux fois moins que ce qu'avait demandé l'avocat général. Et Técèdre le recruteur prend 5 ans. À l'annonce du verdict, Pierre Devarga crie à la cour d'assises.
« Lavez-moi de cette infamie !»
Et son jeune avocat, le futur ténor Francis Piner, tombe en larmes. L'un des accusés se penche vers lui et lui glisse perfide.
« Ne pleurez pas, maître. Votre client sait bien qu'il est coupable. »
Au moment du verdict, les quatre hommes ont déjà passé 5 ans en détention provisoire. Et donc ils savent qu'ils ne vont pas tarder à sortir. Un seul des acteurs de cette affaire a échappé au procès. Patrick de Ribemont, l'un des associés de De Broglie dans l'affaire de la rôtisserie. Il estime pourtant que son honneur a été sali et il saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Et 15 ans plus tard, il obtient 2 millions de francs de dommages et intérêts pour violation du principe de la présomption d'innocence. Pierre Devarga fait la même démarche, mais elle est rejetée. Il sort de prison en 1984. L'inspecteur Simonet sort à son tour de prison. Et depuis, il se bat pour obtenir la levée du secret défense dans cette affaire. Ce qui est bien la moindre des choses. Réponse du ministère de l'Intérieur. Il faudra attendre 2025. Et donc en 2025, peut-être qu'on saura. J'ai écrit cette histoire en m'appuyant notamment sur le livre de Christian Chatillon, Contre-enquête sur l'affaire de Breuil, aux éditions L'Artilleur.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.